Radio J, 14h, 15h, le grand journal.
Eva Soto. Radio J.
Mardi 17 juin 2025, il est 14h, Radio J 94.8 à Paris, Radio J.fr partout dans le monde. Bienvenue dans votre grand journal pour une heure de décryptage de l'information. Ce grand journal, Meir Masri, spécialiste en relations internationales, et notre chronique politique avec Alexis Lacroix. Mais comme chaque jour, on commence ce grand journal avec un point complet sur l'information qui vous est présentée par Nina Alouche. Nina, bonjour.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Ça lance une vague de frappes aériennes sur l'ouest de l'Iran. Par ailleurs, une trentaine de drones iraniens ont été abattus pendant la nuit.
La plupart des drones ont été interceptés au-delà des frontières israéliennes. Plusieurs ont été abattus au-dessus du plateau du Golan. Aucune victime n'est à déplorer. Une quinzaine de personnes ont été légèrement blessées alors qu'elles se dirigeaient vers un abri. Cette dernière salve comptait une vingtaine de missiles tirés en une seule fois contre 10 durant toute la nuit précédente.
L'armée israélienne promet d'attaquer de nouvelles cibles en Iran dans les prochaines 24 heures.
Cette annonce fait suite à l'élimination du nouveau chef d'état-major iranien, moins d'une semaine après celle de son prédécesseur Ali Shadmani. En effet, le nouveau commandant des forces iraniennes a été bombardé dans un centre de commandement à Téhéran. Par ailleurs, Israël Katz affirme que Tzal est sur le point d'attaquer des cibles très importantes en Iran. L'installation nucléaire de Fordo est un problème qui sera résolu, a-t-il déclaré.
Israël Katz qui menace aussi le guide suprême iranien Ali Khamenei de subir un sort similaire à celui de Saddam Hussein, alors que le président Donald Trump, lui, veut l'abandon total du nucléaire iranien, mais pas de cesser le feu.
Déclaration du président américain qui a claqué la porte du sommet du G7 au Canada, officiellement pour une réunion sur l'Iran prévue aujourd'hui à Washington. De son côté, l'Iran se dit prête à ne plus enrichir d'uranium si les combats s'arrêtent. Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk.
Selon Trump, l'Iran a envoyé des messages, en particulier au cours des 24 dernières heures, afin de promouvoir un cessez-le-feu. Le président a déclaré « Les Iraniens ne gagneront pas cette guerre, ils doivent entamer des négociations avant qu'il ne soit trop tard. » Selon certaines sources en Iran, la situation du régime iranien et de son leader Khamenei sont telles qu'ils seraient prêts à renoncer à l'enrichissement de leur uranium en échange d'un arrêt des combats. Mais sur ce point, on affirme côté israélien qu'il n'est pas question pour l'instant d'envisager un cessez-le-feu. Selon le New York Times, Trump pourrait demander à son émissaire Steve Witkoff de proposer aux Iraniens une rencontre cette semaine pour débattre de la situation.
Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk.
Et puis à Paris, le ministère français des Affaires étrangères se fait l'écho du texte final du G7.
La communauté internationale s'inquiète et Emmanuel Macron considère qu'il ne faut pas forcer un changement de régime en Iran. En revanche, Paris, comme les autres membres du G7, soutiennent Israël dans son droit à se défendre. Christophe Lemoine, porte-parole du Quai d'Orsay, appelle à retrouver le chemin de la négociation.
Et il y a un soutien qui est un soutien de principe. Donc l'Iran est un facteur effectivement de déstabilisation régionale assez fort. Il y a une crise de prolifération nucléaire avec l'Iran qui existe depuis longtemps. Je vous rappelle au passage que l'Iran détient deux otages français qui n'ont toujours pas été libérés, Cécile Kohler et Jacques Paris. Sa situation est là aussi très très inquiétante. Il faut que la désescalade arrive. Encore une fois, faut revenir à la négociation. La situation est extrêmement volatile, extrêmement dangereuse. Et dans une région qui est déjà source d'instabilité, donc il faut absolument cesser cette escalade qui peut devenir hors de contrôle.
Christophe Lemoine, porte-parole du Quai d'Orsay sur France Info ce matin.
Et puis, dans le reste de l'actualité, sur le front sud à présent à Gaza, Tzal détruit un complexe souterrain du Hamas sous l'hôpital européen de Khan Younes et scelle un autre tunnel.
L'armée israélienne a annoncé une opération ciblée en cours depuis deux semaines. Elle a été menée par les forces de l'équipe de combat de la brigade Kolani. L'objectif, localiser et enquêter sur une importante infrastructure souterraine du Hamas. L'opération s'est déroulée dans la zone de l'hôpital européen de Khan Younes où le corps de Mohamed Sinwar a été retrouvé. Des dizaines de bétonnières ont déversé environ 250 mètres cubes de béton dans le tunnel pour le sceller, a déclaré Tzal.
En Ukraine, au moins 14 morts à Kiev après des frappes aériennes russes.
Volodymyr Zelensky a dénoncé l'une des pires attaques russes depuis le début du conflit. Le président ukrainien a écrit sur X que Vladimir Poutine fait cela uniquement parce qu'il peut se permettre de continuer la guerre. De son côté, la France dénonce la cruauté et le cynisme sans limite de la Russie. Le ministre français des Affaires étrangères a quant à lui déclaré au Kremlin qui voudrait faire la paix au Proche-Orient, commencer par l'Ukraine.
Et au salon aéronautique du Bourget, Israël ostracisé, 5 stands ont été encerclés de grands panneaux noirs.
Suite au refus de ces participants israéliens de retirer plusieurs armements offensifs de leurs stands et leur isolement visuel des autres pavillons internationaux, dont ceux de la Turquie et de la Chine, Emmanuel Veillard, commissaire général du Salon du Bourget, a quant à lui déclaré « Nous avons eu des ordres, nous les avons appliqués ». Décryptage d'Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël, au micro de Christophe Barbier ce matin sur Radio J.
Contrairement à ce que j'ai entendu de la part des partisans d'Israël, j'ai trouvé cette mesure assez raisonnable. Est-ce que ça gêne Israël ? Cette affaire fait le buzz, et au fond, ce buzz n'est pas mauvais pour les industries israéliennes. Ensuite, les responsables israéliens qui sont là, auxquels j'ai parlé hier au Salon du Bourget, m'ont tous dit « c'est pas ici que ça se passe. Notre showroom à nous, c'est le ciel de Téhéran. »
Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël, ce matin sur Radio J.
Et puis, ça chauffe à gauche. François Hollande estime qu'il ne peut pas y avoir d'accord électoral avec la France insoumise.
Déclaration ce matin de l'ancien chef de l'État. Le député PS de Corrèze a par ailleurs apporté son soutien à Jérôme Guedj, qui a accusé Jean-Luc Mélenchon, je cite, d'être devenu un salopard antisémite lors d'un discours au congrès du Parti Socialiste.
Ça fait des mois et des mois qu'il est insulté, qu'il est agressé. Et à un moment, on voudrait que ce député qui a eu une relation plus personnelle avec Jean-Luc Mélenchon, dont il a été autrefois, il y a longtemps, un des plus proches. Et on voudrait qu'il ne réagisse pas. Donc moi, je soutiens, non pas les mots, mais je soutiens ce que Jérôme Guedj... Quant à l'antisémitisme, écoute, LFI est tout sauf un barrage contre...
Saint-Inter, à Marseille, la permanence du PS vandalisée par des tags antisémites. Des insultes comme « traite à vie » et « partitionniste » ont été taguées sur la façade du local du parti. La fédération annonce porter plainte. Marie-Arlette Carlotti fait le lien avec les attaques répétées contre le député Jérôme Guedj, régulièrement pris pour cible, y compris physiquement.
Merci beaucoup Nina Alouche. Nina Alouche qu'on retrouve tout à l'heure à 14h30 pour le rappel des titres.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
En raison de l'adoption de la motion de censure, le Premier ministre doit remettre la démission du gouvernement.
Ma ligne de conduite sera de ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de côté.
Je ne dirais pas qu'on va censurer a priori, mais je commence à avoir des a priori de censure.
Il n'y a plus qu'une solution pour résoudre le problème. C'est une nouvelle élection présidentielle.
Et c'est l'heure de notre rendez-vous politique avec le directeur de la rédaction d'ActuJ, Alexis Lacroix. Bonjour.
Bonjour, chérie Vassoto.
Gros clash au sommet du G7 au Canada. Donald Trump en a claqué la porte juste après le dîner consacré aux enjeux internationaux hier soir. Le président américain a mis en cause Emmanuel Macron, qui, selon ses propres mots, ne comprend jamais rien. Qu'est-ce qui se passe ?
Bon, écoutez... L'hôte de la Maison Blanche n'est quand même pas un parangon de nuances et de précisions dans son expression. C'est le moins qu'on puisse dire, cher Eva. Et sans faire de l'anti-Trumpisme primaire, il a montré depuis novembre dernier, c'est-à-dire depuis sa réélection et son retour aux affaires, qu'avec sa petite bande de copains, les oligarques de la tech, etc., il n'était pas à une outrance verbale près. Donc, relativisons. Mais je crois néanmoins qu'il y a une vive tension entre le président de la République française, avec ses défauts, ses qualités, on les évoque chaque jour à ce micro, on essaye d'être le plus impartiaux possible, vous et moi, et les autres journalistes de notre belle station, mais effectivement, on a le sentiment que le torchon brûle. Je pense que, comme à l'accoutumée, il ne brûle pas sur le sujet auquel pensent beaucoup de personnes, qui serait le sujet moyen-oriental et qui serait la guerre actuelle en cours, la guerre nécessaire. Et on l'espère,
c'est un prétexte, en fait.
Et on l'espère victorieuse d'Israël contre les installations nucléaires du régime iranien. Je pense qu'effectivement, en réalité, c'est une autre scène qui se dessine. Et c'est une scène dont j'ai souvent l'occasion de parler avec vous dans ces émissions d'analyse politique, qui est le retour des logiques de puissance. En réalité, nous avons aujourd'hui, en dépit de leurs différends, voire de leurs différences d'appréciation, nous avons aujourd'hui des leaders européens, je pense au chancelier allemand, Friedrich Merz, qui vient d'être installé aux affaires, mais aussi Emmanuel Macron, qui sur ce plan-là ont une convergence de vues. Que pensent-ils ? Je la fais très très courte. Ils pensent que dans l'étau de puissance qui se referme, l'illibéralisme américain du trumpisme d'un côté, l'illibéralisme russo-chinois de l'autre, même si on ne peut pas les comparer, évidemment, hein, Vladimir Poutine n'est pas Donald Trump, il pense que l'Europe doit jouer une carte. Et je l'illustre, et vous allez me questionner plus avant là-dessus, sur la visite rendue dans un territoire d'outre-mer danois d'une très grande importance, qui s'appelle le Groenland. Alors, pour nos auditrices, nos auditeurs, il faut dire un mot sur le plan géostratégique du Groenland. C'est quatre fois la France, hein, c'est énorme. Évidemment, c'est un territoire arctique, donc largement enneigé, c'est des glaces, mais c'est un sous-sol qui contient des minerais d'une extrême importance. L'uranium, on en parle beaucoup ces jours-ci à cause de l'Iran, mais aussi le lithium et le nickel. Qu'est-ce qu'a fait le président de la République française ? Et dites-vous bien que tout...
C'est ça, attendez. C'est ça qu'a mis Donald Trump en colère.
En rogne totale. Qu'est-ce qu'a fait ? Mais bien sûr, immédiatement, c'est ça. Qu'est-ce qu'a fait le président de la République française, qui savait ce qu'il faisait ? Il rend visite dans ce département d'outre-mer, en quelque sorte, c'est l'équivalent de la Calédonie pour les Danois. C'est l'équivalent. Et il dit, pas touche au Groenland. Donc les projets d'expansionnisme américain sous la forme soft, entre guillemets, d'une proposition de rachat, ces projets-là sont dénoncés, j'allais dire, au sommet de l'influence européenne. Parce que derrière lui, il n'a pas que la première ministre, Madame Frederiksen, qui est une femme très bien, la première ministre de Copenhague. Il n'a pas qu'elle. Il a l'ensemble des chefs d'État européens qui disent, oui, c'est un scandale qu'on puisse imaginer que ce département d'outre-mer danois soit récupéré à terme par l'Amérique du Nord. Voilà ce qu'il a fait. Et donc, effectivement, on peut critiquer Emmanuel Macron, et je ne m'en prive pas, vous le savez bien, j'essaie d'être impartial. Mais sur ce plan-là, il y a une position, j'allais dire, proactive d'influence européenne future, de ce que pourrait être, disons, une influence européenne future dans le jeu des puissances, qui a, je pense, ulcéré la Maison Blanche.
Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, vous nous dites, c'est un prétexte à ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Pourquoi précisément choisir ce prétexte-là ?
Alors, parce qu'en fait, il n'y a pas... Alors, il y a, vous avez le discours européen classique, mais en fait, il n'est pas très éloigné du discours américain.
Non, c'est le même.
C'est le même. Hein, c'est-à-dire, Israël doit pouvoir défendre sa sécurité, Israël est potentiellement agressé dans son existence même par le nucléaire iranien si le programme venait à bout de l'enrichissement. Donc, c'est parfait. C'est une guerre légitime. Les deux bords de l'Atlantique disent la même chose.
Oui.
En réalité. Et il y a ce codicille français, allemand, etc., qui est, appelons maintenant tout de suite à la désescalade. Mais il n'y a pas de divergence fondamentale. Non. Donc je pense qu'en réalité, l'énervement de Donald Trump, comme souvent, vous savez, j'allais dire, dans l'existence internationale, les colères tapent à côté de leur vrai sujet.
Mais alors, justement, pourquoi choisir précisément ce sujet-là pour ce déplacement politico-névrotique, j'ai envie de dire.
Bah, vous avez raison. Alors, moi, je vais aller un cran plus loin. Les névrosés, vous savez, ils ne sont pas méchants souvent. Enfin, je veux dire, ils peuvent l'être ponctuellement, mais ils ne sont pas méchants.
Là, vous êtes en train de traiter Donald Trump de névrosé ?
Non, justement, je le traite autrement. Je pense que nous avons affaire à un pervers dans son comportement. Or, que fait le pervers ? Il contourne systématiquement, voyez ? Et il ne vous dit jamais les raisons pour lesquelles soit il vous en veut, soit il est content de vous, etc. Et donc, mon analyse, qui n'engage que moi, c'est que nous avons affaire à un grand pervers, polymorphe, qui le montre d'ailleurs, parce qu'il est quand même allié de Vladimir Poutine, par ailleurs, sur le dos de la petite Ukraine agressée,
etc.
Mais
on pourrait vous dire, mais Donald Trump, il défend Israël.
Non, mais ça, c'est autre chose. Ne confondez pas tout. Bien sûr qu'il défend par ailleurs Israël, mais on peut être un pervers et défendre Israël. C'est pas le problème. Mais c'est un pervers. Et donc, je pense qu'en réalité, les vrais objets de son énervement contre les Européens, et notamment contre le président de la République française, que je n'idéalise pas, j'ouvre la parenthèse tout de suite pour nos auditrices et nos auditeurs, les vrais objets sont relatifs à l'affirmation progressive de la puissance européenne qui lui est profondément insupportable. Alors, qu'a-t-il voulu faire par ailleurs à la face du monde ? Il a voulu, Mathilde Panot l'a relevé dès ce matin, les imbéciles de LFI sont toujours là pour relever les mauvaises choses, il a voulu humilier notre pays. Mais en fait, il n'y parvient pas. Si vous décryptez comme je vous le fais la séquence, il n'y a aucune humiliation. Il y a en revanche la réponse du berger à la bergère, du berger Trump à la bergère Macron. Il sait que Macron, qu'on peut critiquer par ailleurs, est dans une position proactive sur les intérêts, j'allais dire essentiels, existentiels de l'Europe. Et parmi les intérêts existentiels de l'Europe, il y a de maintenir le Groenland, cette terre arctique absolument phénoménale, sous égide européenne.
Est-ce que la parole de Donald Trump est encore crédible? Vous l'avez tout à l'heure qualifié, selon vos propres mots, de pervers, c'est-à-dire quelqu'un qui ne dit jamais, qui dit toujours ce qu'il veut de façon déplacée.
Ouais, je pense. Alors, si vous voulez, là encore, je ne suis pas psychiatre ou psychanalyste, il faudrait parler sous le contrôle de personnes qui sont spécialistes de ce sujet-là, mais vous posez par ailleurs une question assez fondamentale. On peut penser ce que l'on veut, encore une fois, je ne suis pas dans l'idéalisation des chefs d'État européens. On peut penser ce qu'on le veut, je ne suis pas dans l'idéalisation non plus, du chef d'État, enfin disons en tout cas du premier ministre israélien, etc., de ses stratégies. Mais ce sont des gens, alors chacun dans leur genre, dont la parole n'est pas complètement dévaluée. Vous voyez, la parole internationale, je veux dire. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou le montre ces derniers temps, c'est une évidence. Bien. Là, vous avez une question, et j'ai eu un dîner de famille récemment. Vous savez, les dîners de famille permettent de prendre la température des opinions. Et plusieurs personnes m'ont dit, comme ça, on parlait à bâton rompu, m'ont dit, oh là là, Trump, le début des ennuis commence. Il est tellement contradictoire et ambivalent dans ses positions qu'il est en train de se griller auprès de son propre peuple. Alors, je vous livre ça à titre d'hypothèse. Nous n'en sommes peut-être pas encore tout à fait là. Il a un socle tout à fait solide, mais il y a quelque chose de brouillon, il y a quelque chose d'erratique, il y a quelque chose de désordonné, et il y a quelque chose, alors je vais le dire avec des mots là aussi de psychanalyste, de pulsionnel, vous voyez, comme si le serpent reptilien était toujours là, plus que l'homme conscient, plus que l'homme maîtrisé dans ses pensées.
Il n'y a que de la réaction.
Voilà, plus que l'homme maîtrisé dans ses pensées et dans ses déclarations. Et je pense qu'effectivement, quand on est à un haut niveau dans le pouvoir, quel que soit l'exercice du pouvoir, chef d'entreprise, intellectuel, homme politique, c'est quand même gênant. Vous voyez, ce côté pulsionnel est quand même gênant.
Alors, une réaction quand même, parce que je voulais vous faire réagir là-dessus, Alexis Lacroix, en tant que directeur de la rédaction d'ActuJ, par rapport au fameux Salon du Bourget, où 5 des 9 entreprises israéliennes qui exposent ont été ostracisées. On a vu des photos impressionnantes avec ces stands et tout autour des panneaux noirs.
Oui, ça c'est inexcusable. Je ne pense pas, alors maintenant je vous livre ça comme hypothèse, hein, que ça remonte à l'Élysée, hein, je ne pense pas, mais il faudra élucider les circonstances dans lesquelles ce boycott inadmissible...
Est-ce que c'est un boycott puisqu'il y en a 5 sur les 9 ?
Écoutez, ça ressemble... Alors, si on ne veut pas employer strictement le mot de boycott, soyons précis Eva, ça ressemble à une stigmatisation, à une sorte de mise à l'index. Vous voyez, la mise à l'index, vous voyez, c'était ces processus dans la chrétienté classique, consistant, par exemple, vis-à-vis de livres, à les désigner à la vindicte. Donc, tout ça est malsain. Maintenant,
ça veut dire, avec ces panneaux, là, autour, oui, on a désigné ces stands à la vindicte.
Moi, c'est ce qu'il me semble. Je n'ai pas, si vous voulez, enquêté sur le sujet, mais celles et ceux qui y étaient en sont revenus tout à fait effarés. Mais là où il faut que nous soyons prudents, c'est que ça n'est peut-être pas une initiative du pouvoir français, gouvernemental, je veux dire, hein, vous voyez.
Merci beaucoup Alexis Lacroix, directeur de la rédaction d'ActuJ, qu'on retrouve bien sûr très régulièrement sur Radio J, notamment pour ses chroniques politiques dans le Grand Journal. Merci beaucoup.
Tout d'un revoir, chérie.
Merci.
Radio J, 14h-15h, le Grand Journal. Eva Soto.
Mardi 17 juin 2025, merci de nous avoir choisis pour vous informer, à suivre dans votre Grand Journal la correspondance de Pascal Sunshine et la chronique du président du CRIF, Yonatan Arfi. A tout de suite.
Radio J, 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen.
Je vous
vous donne rendez-vous du lundi au jeudi pour le moment culture de Radio J autour d'une personnalité.
Il y a une énergie qui se crée par l'amour du public.
Je pense qu'elle dirait quelque chose un petit peu éthéré comme ça.
En direct, de 15h à 16h sur Radio J.
Israël, c'est quoi? C'est le corps des Juifs.
Radio J.
Bonjour, c'est Ilana Ferradian. Vous connaissez ma voix depuis une dizaine d'années maintenant, mais pas forcément mon histoire. Cette histoire, j'ai décidé de vous la raconter sans filtre, à travers mon livre « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA ». Je m'y livre sans tabou, sur mon infertilité, à travers les nombreuses suives que j'ai dû endurer pour avoir ma fille, parce que c'est un sujet qui touche énormément de femmes et de couples dans la communauté. J'espère vous donner de la force et de l'espoir. « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA », aux éditions David Reynark.
Radio J, 14h, 15h, le grand journal.
Eva Soto.
14h19 sur Radio J. Vous pouvez bien évidemment nous écouter sur le 94.8 à Paris et partout en France et dans le monde sur radioj.fr, notamment en Israël, où nous partons immédiatement.
Nous, écoutons. Nous écoutons. Nous écoutons.
Avec les marques, la chose
est trop forte. Nous avons pour aller le long de route.
La rue est
trop forte. Il y a des
Pascal Sunshine.
Et nous retrouvons donc notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Pascal, bonjour.
Bonjour Eva.
Tout d'abord, avec vous, un point sur la situation sur le terrain dans la guerre entre Israël et l'Iran.
Eh bien, on en est toujours à cette attaque de ce matin, bombardement iranien dirigé vers la région de Tel Aviv. 5 blessés très légèrement atteints, alors qu'un missile a touché un dépôt de bus, heureusement désert, au nord de Tel Aviv, et après avoir tiré environ une vingtaine de missiles balistiques contre Israël, donc la quasi-totalité des missiles ont été interceptés par le système de défense anti-missile israélien.
Israël Katz menace le guide suprême iranien Ali Khamenei de subir un sort similaire à celui de Saddam Hussein. Tzahal a aussi visé le siège de la radio-télévision d'État à Téhéran hier. Benjamin Netanyahou envisage d'éliminer Ali Khamenei. Est-ce que le but d'Israël, c'est de renverser le régime islamique ?
Non, Benjamin Netanyahou n'envisage pas d'éliminer Ali Khamenei. Ça fait partie évidemment de toutes les balles avec lesquelles on jongle. Il ne faut pas oublier que c'est une guerre psychologique pour l'instant. Ça n'est pas la priorité, ça n'est pas l'intérêt d'Israël. Évidemment, le conflit a sa propre dynamique. La décision peut devenir légitime ou justifiée ultérieurement. Pour l'instant, le changement de régime en Iran serait un résultat de l'opération, pas un objectif. Donc tout peut effectivement arriver et se produire. Pour l'instant, ce qu'Israël essaye de faire avec ses éliminations ciblées, c'est de déstabiliser la chaîne de commandement militaire, la chaîne de commandement nucléaire. Il est évident que si l'on élimine les responsables scientifiques du programme, ils sont beaucoup plus difficiles à remplacer que des officiers d'état-major. Là, c'est un savoir-faire de parfois de dizaines d'années acquis par les scientifiques concernés. Et donc là, ça a un véritable impact sur ce qu'Israël cherche à faire, c'est-à-dire à freiner et à faire reculer le plus loin possible le programme d'armement nucléaire de l'Iran.
Quelle est la situation, Pascal, sur un autre front, hein, celui de Gaza ?
Alors, avant de parler de Gaza, si vous le voulez bien, Eva, je voulais simplement faire un point parce que je sais que c'est aussi important pour les auditeurs de Radio J qui ont de la famille en Israël et les différentes consignes qui parfois sont un petit peu difficiles à suivre du commandement de la défense civile de Tzahal. Et une information importante, c'est que au vu justement des bombardements de l'Iran qui ne sont pas toujours à heure fixe mais qui sont pour la plupart du temps nocturnes. Les personnes qui n'ont pas dans leur immeuble ou dans leur appartement d'abri fortifié, de pièces fortifiées réglementaires, doivent maintenant se préparer à passer toute la nuit dans des abris publics. À nouveau, s'ils n'ont pas dans leur immeuble ou dans leur appartement de pièces fortifiées destinées à les protéger des bombardements. Donc c'est une consigne importante que vient de donner le commandement de la défense civile de Tsahal, une information donc vitale aussi pour la population israélienne, alors qu'on s'attend évidemment à de nouveaux bombardements de la part de l'Iran.
Passer la nuit dans des abris publics, Pascal, ça concerne quelle proportion, grosso modo, d'Israéliens ?
On considère que c'est environ 56% des Israéliens qui ne disposent pas d'abris, de pièces fortifiées dans leur appartement, dans leur résidence, construite avant le début des années 90. Donc près de la moitié de la population israélienne. Il y a aussi quand même des abris dans des immeubles plus anciens à l'intérieur de l'immeuble, mais donc une pièce collective souvent donc en sous-sol pour l'ensemble des habitants, mais ça représente quand même plusieurs milliers de personnes concernées par ces nouvelles consignes de la défense civile de Tsahal.
Pascal, juste deux mots sur la situation à Gaza.
Oui, la situation à Gaza avec, on le voit, les opérations de Tsahal qui continuent. Malheureusement, on l'a dit ce matin, deux soldats de Tsahal tombés hier dans des attaques du Hamas. Le Hamas qui évidemment donc continue à défier Tsahal, d'ailleurs aussi espérant que le fait que les forces de sécurité soient concentrées sur le front iranien leur donne une autre marge de manœuvre, ce qui n'est pas le cas. 5 divisions de Tsahal sont toujours présentes à l'intérieur du territoire côtier.
Merci beaucoup Pascal Zunshine, notre correspondante à Jérusalem, qu'on retrouvera bien sûr demain matin dans le Morning, le 6-9 de l'Info, présenté par Ilana Ferradian. Bon après-midi à vous Pascal, et prenez soin de vous. Merci.
Merci Eva.
Radio J. 14h-15h. Le Grand Journal.
Eva Soto.
Et comme chaque mardi après-midi dans le Grand Journal, notre rendez-vous avec le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, Yonatan Arfi, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'être réélu pour un second mandat à la tête du CRIF. Parmi vos objectifs pour ce second mandat, c'est de rendre l'influence de la France insoumise résiduelle. Ce sont vos termes. Jean-Luc Mélenchon vous a répondu sur X. Imaginez que je dise du CRIF la même chose. L'extrême droite devrait réfléchir avant de provoquer ce message. Le vôtre, donc, montre ce qu'est le communautarisme politique. Que répondez-vous à Jean-Luc Mélenchon ?
D'abord que, visiblement, pour Jean-Luc Mélenchon, tout ce qui n'est pas LFI est d'extrême droite, premièrement. Deuxièmement, qu'au fond, il prétend ne pas être antisémite, mais il n'aime les juifs que s'ils sont chez les insoumis. Et c'est ça la réalité à laquelle on fait face, c'est que aujourd'hui, eh bien, Jean-Luc Mélenchon a contribué à libérer dans la société française eh bien, des marqueurs antisémites qui sont nombreux. Alors, Jérôme Guedj les a dénoncés il y a quelques jours lors du congrès du Parti Socialiste, mais depuis longtemps, il y a un faisceau d'indices qui témoigne de la contribution de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise au climat délétère aujourd'hui qui vise les juifs dans notre pays.
Aujourd'hui, LFI, c'est le premier pourvoyeur, selon vous, d'antisémitisme en France ?
LFI a une responsabilité particulière parce qu'il c'est un parti qui donne une caution politique à l'antisémitisme dans notre pays.
En quoi la donne-t-il ?
Et parce qu'ils choisissent d'hystériser le débat public autour de la question de Gaza, qu'ils n'ont jamais dénoncé l'antisémitisme qui est né des confusions entre les juifs et le conflit à Gaza, qu'ils participent même à entretenir ces confusions en dénonçant de manière tout à fait stigmatisante les juifs comme des génocidaires, complices de génocide. Enfin, on voit bien qu'il y a 20 ans, nous étions traités de sionistes. Aujourd'hui, on nous traite de génocidaires et c'est une rhétorique qui est portée par LFI. Mais au-delà de ça, j'invite à réfléchir un instant à la responsabilité des hommes et des femmes politiques. La parole d'un homme ou d'une femme politique peut soit apaiser, soit hystériser le débat public. LFI a clairement choisi d'électriser en permanence le débat autour de la question de Gaza, quitte à ce que cela se fasse sur le dos de la sécurité des Français juifs.
Est-ce qu'Olivier Faure, en renvoyant dos à dos après les propos de Jérôme Guedj contre Jean-Luc Mélenchon, donc Jérôme Guedj et Jean-Luc Mélenchon, participe à cela désormais, selon vous ?
Il y a un problème très clair avec Olivier Faure. C'est celui, au fond, qui ne rejette pas l'alliance avec la France insoumise. Il en a été l'artisan depuis quelques années. Et après avoir mis cela de côté pendant la période des élections internes au Parti socialiste, on voit que depuis sa victoire, il refuse de s'engager sur le fait qu'il n'y ait pas d'alliance avec LFI. Ce que cela dit donc, c'est que pour lui, la question de l'antisémitisme est malheureusement une question secondaire. Que ce qui prime, c'est d'abord l'efficacité électorale, et que cette efficacité, il pense qu'elle est du côté d'une alliance avec la France insoumise. C'est trahir l'histoire du Parti socialiste, c'est trahir l'histoire de la gauche en France, qui a eu longtemps pour colonne vertébrale la lutte contre l'antisémitisme, au moins depuis l'affaire Dreyfus.
Merci beaucoup Jonathan Arfi d'avoir été avec nous ce mardi dans le Grand Journal, comme toutes les semaines d'ailleurs. Merci beaucoup Jonathan Arfi, président du CRIF, et à la semaine prochaine.
Eva Soto.
Vous êtes au cœur de votre grand journal, il est 14h30, tout de suite le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina.
Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous. Tsahal lance une vague de frappes aériennes sur l'ouest de l'Iran. Par ailleurs, une trentaine de drones iraniens ont été abattus pendant la nuit. La plupart de ces drones ont été interceptés au-delà des frontières israéliennes. Plusieurs ont été abattus au-dessus du plateau du Golan. Aucune victime n'est à déplorer et une quinzaine de personnes ont été légèrement blessées alors qu'elles se dirigeaient vers un abri. L'armée israélienne promet d'attaquer de nouvelles cibles en Iran dans les prochaines 24 heures. Cette annonce fait suite à l'élimination du nouveau chef d'état-major iranien, moins d'une semaine après l'élimination de son prédécesseur, Ali Shadmani. Israël Katz affirme que Tsahal est sur le point d'attaquer des cibles très importantes en Iran. Par ailleurs, il menace le guide suprême iranien Ali Khamenei de subir un sort similaire à celui de Saddam Hussein. L'ambassadeur iranien, quant à lui, a déclaré « Nous n'avons jamais appelé à éradiquer Israël ». En Ukraine, au moins 14 morts à Kiev après des frappes aériennes russes. Volodymyr Zelensky a dénoncé l'une des pires attaques russes depuis le début du conflit. Le président ukrainien a écrit sur X que Vladimir Poutine fait cela uniquement parce qu'il peut se permettre de continuer la guerre. À Marseille, la permanence du PS a été vandalisée par des tags antisémites. Des insultes comme « traître à vie » et « partitionniste » ont été taguées sur la façade du local du parti. La fédération annonce porter plainte. Enfin, François Fillon, condamné à 4 ans de prison avec sursis. L'ancien Premier ministre écope d'une amende de 375 000 euros et 5 années d'inéligibilité. Plus de 8 ans après les révélations sur les emplois fictifs de son épouse Pénélope.
Merci beaucoup Nina Alouche, on vous retrouve tout à l'heure à 15h pour le prochain point complet sur l'information.
Le Grand Journal,
Eva Soto.
Radio J. Radio J, 14h, 15h, le Grand Journal,
Eva Soto.
Il est 14h passé de 32 minutes. Merci d'avoir choisi le Grand Journal pour vous informer à Paris sur le 94.8. Notre invité, Meir Masri, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem et expert en relations internationales, Iran-Israël, on y revient.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
Ils visent des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là chaque seconde auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org.
mda-france.org. Radio J, 14h-15h, le Grand Journal.
Eva Soto.
Mardi 17 juin 2025, il est 14h, une édition spéciale bien sûr consacrée notamment à ce qui se joue entre Israël et l'Iran au cinquième jour de guerre. On en parle dans un instant.
Radio J, l'invité du grand journal.
Radio J.
Bonjour Meir Masri.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Radio J pour ce grand journal. Vous êtes professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem et expert en relations internationales. Première question, hein, Pascal Zonchan vient de nous en parler, notre correspondante à Jérusalem. Les consignes données aux Israéliens, c'est de désormais passer la nuit dans les abris, y compris si on n'a pas de chambre fortifiée chez soi, dans son appartement, mais qu'on doit dormir dans les abris publics. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'évolution de la guerre ? Ça veut dire que ça va s'intensifier ?
Un petit problème, la communication n'est pas très bonne, sans doute à cause de la situation. Et donc l'Internet est un peu lent, un peu partout en Israël en ce moment. Alors, ce qui se joue aujourd'hui, c'est que le régime iranien joue sa survie et sait qu'il n'en a probablement pas pour longtemps. La conséquence directe de la guerre en cours aujourd'hui en Iran est la déstabilisation du régime qui pourrait ne pas survivre à cette guerre. Et par conséquent...
Meir Masri, ne pas survivre ou ne survivra pas à cette guerre ?
Probablement, il ne survivra pas à cette guerre, le régime iranien. Et si jamais il ne chute pas et qu'on parvient à une équation à la libanaise, en vertu de laquelle l'Iran, le régime capitulera, mais en vertu d'un cessez-le-feu très bas qui laissera à Israël une marge de manœuvre en Iran, il ne s'en sortira pas comme ça. Je veux dire, le régime iranien ne ressemblera pas après la guerre à ce qu'il aura été avant le 13 juin, ça c'est sûr et certain. C'est quelque chose d'évident pour tout le monde et pour les Iraniens en premier. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons en Israël trois objectifs majeurs en Iran. Le premier objectif est de détruire le programme nucléaire iranien. Le deuxième objectif est de détruire le programme balistique iranien. Le troisième objectif et d'atteindre profondément le système, le dispositif milicien que l'Iran a mis en place dans la région. Une fois qu'on aura atteint ces trois objectifs, eh bien, il est fort probable que le régime iranien se retrouve profondément affaibli, structurellement affaibli. C'est un régime qui repose sur un dispositif milicien. D'ailleurs, on le voit, l'armée iranienne joue un rôle marginal dans cette guerre.
Comment ça, marginal ? Qui joue un rôle central dans cette guerre ?
Marginal,
alors
ça veut dire que... Et non, le rôle central est joué par les gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution, c'est une super milice qui a beaucoup plus de prérogatives, beaucoup plus d'armement lourd et qui dépend directement du guide suprême, tandis que l'armée a un rôle symbolique. Vous savez, en Iran, il n'y a même pas d'armée de l'air. Alors, on parle d'avions, mais c'est les avions qui auraient été bombardés par Israël, mais c'est des avions qui datent des années 70, des avions américains.
Ça veut dire Meir Masri, que à part entre guillemets les missiles et les drones qui sont envoyés sur Israël, c'est la seule force aérienne du régime islamique aujourd'hui.
Absolument, c'est l'unique carte dont dispose le régime. Et alors peut-être que, et c'est là la crainte que nous avons en Israël, c'est qu'il se peut qu'il y ait des bombes sales. Des surprises peut-être que le régime nous réservera. Dans la guerre des surprises, on lui a réservé un certain nombre de surprises, et eh bien on ne sait pas ce qui pourrait être également ce que peuvent nous cacher les jours à venir.
Meir Masri,
nous prenons toutes nos dispositions. Mais les missiles balistiques et les drones, c'est la menace stratégique majeure et peut-être même unique dont dispose aujourd'hui le régime, et notamment les missiles, parce que les drones, on arrive en Israël encore à gérer ce problème un peu plus, avec moins de difficultés.
Meir Masri, il est question aussi dans ce qui se joue par rapport à l'Iran, de l'Arabie Saoudite. Est-ce que la guerre finalement que mène Israël contre l'Iran, ça pourrait à terme favoriser aussi la reconnaissance par l'Arabie Saoudite d'Israël, puisque l'Arabie Saoudite et l'Iran, ça fait pas bon ménage du tout?
Alors, il est évident que cette offensive israélienne donne à Israël beaucoup plus de valeur aux yeux de ses interlocuteurs arabes, aux yeux de la société internationale de manière plus globale, en tant que force de dissuasion, de puissance militaire majeure aujourd'hui, capable d'effectuer des frappes. Vous savez, il y a très peu de pays au monde, y compris des puissances nucléaires comme la France, qui seraient capables de mener ces opérations que mène aujourd'hui Israël en Iran. Donc c'est quelque chose d'inédit, c'est un exploit inespéré, et vous vous rendez compte, il y a un an et demi, et c'était Israël, la force de dissuasion israélienne avait été fortement atteinte, et on disait, oui, mais Israël est incapable de faire face au Hamas, qui est quand même un petit groupe isolé, sous blocus depuis 17 ans, dans une petite bande côtière, la bande de Gaza, qui est elle-même sous blocus. Et donc, et c'est les grands qui négocient, hein, c'est l'Amérique qui négocie pour Israël et l'Iran qui négocie pour le Hamas. Et c'était une situation qui n'était pas très confortable pour Israël, notamment sur le plan stratégique. Et bien aujourd'hui, on voit qu'Israël s'est relevé, et tout ça, bien sûr, a un impact sur le rapport de force régional et sur la façon dont Israël est perçu par les pays arabes. Mais... même si l'Arabie Saoudite a condamné l'offensive, tout comme les Émirats Arabes Unis et une majorité de pays arabes. Mais tout cela, évidemment, est devant les caméras, dans les coulisses. Je pense que les choses sont très différentes.
Effectivement, puisque l'Arabie Saoudite fait partie des pays qui ont stoppé les drones iraniens qui étaient en direction d'Israël, malgré les déclarations anti-israéliennes du régime islamique. Pourquoi Israël attaque ou riposte à l'Iran? Est-ce que ça a davantage un rapport avec le 7 octobre et la volonté de briser les proxys, ou réellement avec cette volonté de lutter contre le programme nucléaire iranien?
Non, c'est le programme nucléaire iranien. C'est ça, en vérité, la véritable, c'est également qui donne une justification tout autre à l'action israélienne.
Ça veut dire, Meir Masri, ça veut dire que si Israël n'attaquait pas maintenant l'Iran, qu'est-ce qui pouvait se passer? Ça veut dire que l'Iran aurait pu tirer, je ne sais pas, dans 2 semaines, 3 semaines, des missiles nucléaires contre Israël?
Non. Lorsqu'on veut avoir la bombe atomique, ce n'est pas pour l'utiliser, c'est une arme de dissuasion. Et pour le cas de l'Iran, c'est un petit peu plus différent, puisque l'Iran n'est pas encore en mesure de fabriquer une première bombe. Ce qui se passe en Iran, c'est que l'Iran voudrait devenir un état du seuil. À l'état du seuil, c'est un état qui n'a pas la bombe, mais qui pourrait la fabriquer en un temps très court. Et c'est l'objectif iranien. Du point de vue de la société internationale, ça n'est pas une menace nucléaire, puisqu'il n'y a pas de bombe. Il y a uniquement une capacité à fabriquer. Du point de vue israélien, c'est une menace nucléaire, puisqu'en Israël, on considère qu'à partir du moment où l'Iran serait capable, en un temps court, de fabriquer une bombe, ce qui fait de l'Iran un état du seuil, et donc ça constitue une menace en soi et qui justifie une action coercitive. Et c'est ce qu'Israël a fait. Et c'était en réalité le différent. Et non pas sur le plan stratégique, mais sur le plan tactique entre Israël et les administrations Obama et Biden, les démocrates donc de manière plus générale aux États-Unis, qui considèrent qu'un état du seuil, ça n'est pas une menace nucléaire imminente, d'une part, et d'autre part, le coût d'une guerre avec l'Iran serait plus important et plus dangereux pour la stabilité régionale et mondiale qu'une acquisition par l'Iran de capacités nucléaires à caractère militaire. En Israël, nous considérons que l'acquisition par l'Iran du bombe nucléaire ou de capacité à produire des armes nucléaires est une menace suprême.
Est-ce que Israël peut aussi mener cette opération contre l'Iran? Parce qu'après le 7 octobre, les proxys iraniens ont été affaiblis aussi par Israël. Je pense notamment au Hezbollah.
Ah bien sûr, et d'ailleurs je pense que Israël a agi par étapes. D'abord on a réduit de manière significative la menace que constituaient le Hamas et les milices qui sévissent encore aujourd'hui dans la bande de Gaza, même si c'est d'une façon beaucoup plus symbolique que par le passé. Ensuite, on s'est attaqué à la milice la plus puissante du dispositif iranien, à savoir le Hezbollah, qui était une des armées les plus puissantes de la région et l'élément hégémonique au Liban. Le régime de Bachar el-Assad, dans la foulée, a été tellement affaibli qu'il n'a pas pu faire face à la montée ou plutôt la descente des djihadistes vers Damas, et donc s'est effondré dans la foulée, ce qui constitue bien sûr un élément peut-être négatif sur un certain nombre de dossiers régionaux, mais pour Israël et sur le plan stratégique global, c'est un exploit important, puisque cela signifiait que l'Iran n'était plus présent dorénavant en Syrie, et que donc c'est encore une fois des défenses anti-aériennes de moins sur la route de Jérusalem vers Téhéran. Donc tout cela a facilité et a été, si j'ose dire, introductif pour la Grande Guerre. Et c'est une guerre dont on parle depuis très longtemps. Vous savez, ça fait 15 ans qu'on parle de cette guerre et tellement de livres qui ont été publiés pour dire qu'Israël se prépare à une attaque, mais est-ce qu'Israël serait capable de mener seul ou sans les Américains? Et aujourd'hui, eh bien, le 13 juin, on a vu qu'Israël est passé à l'action après des années et des années. Et un budget qui a été réservé pour cette mission.
Merci.
Sous un ancien gouvernement avec Benny Gantz, qui a été l'un des architectes finalement de cette offensive d'une certaine manière, puisque ça a été planifié durant des années.
Il y a Merci beaucoup.
Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose qui était préparé à l'avance.
Merci beaucoup, Meir Masri. Donc, on comprend effectivement votre analyse. L'Iran, a pu être attaqué par Israël, qui a riposté grâce à l'affaiblissement de ses proxys. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci.
Radio J. Radio J, le bloc-net.
Bloc-notes comme tous les mardis de Raphaël Amselem. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et analyste en politique publique au sein notamment du think tank Génération Libre. Votre éclairage aujourd'hui est particulièrement intéressant sur ce qu'il se joue à gauche en matière de lutte contre l'antisémitisme, ce qu'il se passe entre LFI et une partie du PS qui se range du côté de Jérôme Guedj contre Olivier Faure, qui est pourtant le leader du parti. Est-ce que c'est l'illustration des deux gauches irréconciliables, selon la fameuse expression désormais consacrée de Manuel Valls? Ah, on vous entend très mal. On vous entend très très mal, Raphaël Amselem. On va essayer de vous rappeler par téléphone parce qu'on vous entend extrêmement mal. Nous sommes donc, comme tous les mardis, avec Raphaël Amselem, journaliste et analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre. Et on parle bien sûr de ce qui se joue à gauche en matière de lutte contre l'antisémitisme. Après le coup de gueule ce week-end au congrès du PS de Jérôme Guedj, qui a traité, je cite Jean-Luc Mélenchon, de salopard antisémite, ce qui a provoqué toute une suite de réactions, notamment au sein du Parti socialiste. Vous êtes là, Raphaël ?
Je crois bien.
Merci beaucoup. Donc votre éclairage est particulièrement intéressant sur ce qu'il se passe. Alors effectivement, ce PS qui se divise autour du cas de Jérôme Guedj est plus important de l'antisémitisme. Est-ce que c'est l'illustration des deux gauches irréconciliables selon l'expression désormais consacrée de Manuel Valls ?
C'est pas seulement les deux gauches irréconciliables, c'est les deux francs du Parti socialiste irréconciliables. Et je crois que c'est d'ailleurs un symbole assez fort sur le résultat qui avait été obtenu à la fin du vote en interne pour la présidente du parti. Monsieur Olivier Faure n'a pas obtenu une victoire qu'on pourrait qualifier d'écrasante. On est plutôt sur un 50-50. Donc on voit bien qu'il y a une division très forte sur le sujet par une partie du Parti socialiste qui a très bien saisi qu'en se fondant avec la France insoumise, en réalité, on devenait complètement inféodé à Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, on voit bien, à travers la réaction d'Olivier Faure à propos de la formule de Jérôme Guedj, à Télématin, dans lequel il dit, au fond, Monsieur Mélenchon et Monsieur Guedj cherchent chacun à servir leurs propres intérêts politiques.
Il les renvoie dos à dos. Qu'est-ce que ça nous dit aussi de cette question centrale, hein, notamment à gauche et notamment depuis le 7 octobre, de l'antisémitisme?
C'est 5 minutes pour le juif et 5 minutes pour l'antisémite. Voilà, c'est la preuve d'une extrême, d'un extrême courage qu'on connaît bien à Olivier Faure. Plus sérieusement, il y a, on voit bien une partie du Parti Socialiste qui aujourd'hui prend conscience qu'il y a un problème lié à l'antisémitisme à gauche. Il y en a une autre partie qui ne souhaite pas avoir ce problème. Et on verra bien qui des deux va essayer de gagner. Parce que ce que ça signifie aussi, le fait que Jérôme Guedj reçoive le soutien non seulement de Monsieur Rossignol, de Madame Rossignol, pardon, de Monsieur Maillard, de Monsieur
de François Hollande aussi ce matin sur France Inter.
Exactement, c'est qu'on voit bien qu'il y a une bataille interne qui est en train de se jouer, et la question antisémite devient, disons, le catalyseur de l'ensemble des divisions au sein de la gauche. Et ça, c'est un combat de coq, donc on verra bien qui en ressortira le vainqueur.
Pour le chercheur américain Moïse Postone, l'antisémitisme n'est pas un racisme, mais bien une idéologie purement autonome, capable d'intervenir dans l'histoire. L'antisémitisme intervient aussi aujourd'hui dans l'histoire du Parti Socialiste?
Je ne sais pas bien si on peut qualifier le Parti Socialiste ou la frange problématique du Parti Socialiste comme étant antisémite. Si vous voulez, ils ont eu des positions très critiques à l'égard d'Israël, mais moi je n'ai pas souvenir d'une déclaration quelconque de Monsieur Faure ou d'une personne de son camp qui soit explicitement antisémite. En revanche, ce qu'on peut tout à fait reprocher au Parti Socialiste, notamment depuis 5 ans que le problème émerge, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas du 7 octobre qu'on a ce problème d'antisémitisme au sein de la France insoumise. Ce qu'on peut reprocher au Parti Socialiste, c'est jusqu'à maintenant de ne pas avoir une parole assez forte, d'avoir excusé, de ne pas avoir vu le problème. Par exemple, lorsqu'il y avait eu, je me souviens, les tags antisémites contre le candidat aux européennes représentant le Parti Socialiste, M. Glucksmann, il avait expliqué de façon assez lâche qu'au fond, on avait le droit de critiquer la politique du gouvernement israélien. Voilà, c'est toutes ces contorsions qui n'ont qu'un seul objectif, au fond, essayer de faire passer l'antisémitisme pour quelque chose d'instrumentalisé et comme un moyen de censure. Et cette réaction de M. Faure qui donne 5 minutes pour le juif et 5 minutes pour l'antisémite, ça s'inscrit dans cette démarche-là. C'est-à-dire l'idée, au fond, que M. Guedj sert ses intérêts politiques en utilisant la question de l'antisémitisme. Donc M. Guedj ne serait pas sincère, il serait dans une démarche partisane visant à faire taire son adversaire politique. Je trouve ça, pour ma part, parfaitement dégueulasse.
Raphaël Amselem, il y a effectivement cette question, vous en avez parlé, ce prétexte trouvé dans ce qui se passe à Gaza, ce qui s'est passé le 7 octobre. On a souvent du mal à faire la différence entre ce qui relèverait de la critique de la politique du gouvernement israélien et de ce qui relèverait de l'utilisation d'Israël, de Gaza, comme un prétexte à couvrir des discours antisémites. C'est ça la difficulté aussi.
C'est la difficulté entre la critique et l'antisémitisme. Et je pense qu'en réalité, les outils ne sont pas si difficiles à trouver pour distinguer les deux. Par exemple, lorsque vous avez deux ministres fous furieux qui discutent publiquement s'il serait opportun de laisser crever de faim l'ensemble des Palestiniens. Bon, vous comprendrez bien qu'ici, il n'est pas question d'antisémitisme, mais simplement défendre les droits de l'homme. En revanche, quand il s'agit de présenter Israël comme une figure diabolique, quand il s'agit de dire qu'Israël contrôle les puissances politiques, financières, médiatiques mondiales pour servir sa propre propagande, quand on parle d'un lobby qui agit pour servir les intérêts du gouvernement israélien, quand on parle d'Israël qui empoisonne ou qui a des démarches qui rappellent certains clichés antisémites qui concernaient les juifs à l'époque médiévale, c'est là où en réalité on peut percevoir l'antisémitisme. L'antisionisme, en quoi est-ce qu'il peut véhiculer des formes d'antisémitisme? C'est quand il transforme des clichés traditionnels et se les réapproprie en utilisant Israël comme l'incarnation de l'entité collective juive. Et c'est ça le sujet, c'est à chaque fois de démontrer comment tel cliché s'insère en réalité dans un schéma tout à fait traditionnel. Si on prend le cas, par exemple, de Madame Hassan. Madame Hassan avait fait un tweet à propos de Stéphane Séjourné, où Stéphane Séjourné s'était opposé à une sanction contre Israël, et elle avait écrit en tweet « à la demande du Christ ». Bon ben voilà, c'est la figure du juif qui soumet le pouvoir, du juif qui contrôle le pouvoir, du juif qui indique quel est l'élément à adopter vis-à-vis d'Israël. Et c'est en cela que le tweet de Rima Hassan, je ne connais pas ses intentions profondes, mais c'est en tout cas en cela que son tweet s'inscrit par exemple dans un antisémitisme traditionnel, en véhicule des tropes, et ça concerne, là je prends l'exemple de Rima Hassan, mais ça concerne tout un tas d'autres figures.
Bien sûr, merci beaucoup Raphaël Amselem, journaliste et analyste en politique publique, notamment au sein du think tank Génération Libre.
Radio J.
Eva Soto.
Et c'est le moment de retrouver le Rav Chaim Nissenbaum pour Judaïsme dans la cité, comme tous les mardis. Rav, bonjour.
Bonjour à tous.
Rav, on parle bien évidemment dans ces éditions matin et après-midi de cette fameuse guerre, ce nouveau front ouvert entre Israël et l'Iran. Et pour commencer à en parler, je vais vous citer le Talmud face à celui qui vient te tuer. Lève-toi et tue le premier. C'est ce qu'est en train de faire Israël par rapport à l'Iran, c'est-à-dire l'Iran, le régime islamique iranien, on le sait. C'est dans son ADN, la destruction d'Israël, la destruction du peuple juif. Un journaliste israélien nous le disait ici même hier à l'antenne. Alors, est-ce qu'Israël se défend pour survivre ?
Mais c'est exactement cela. Alors, il ne faut pas oublier que dans la vision du judaïsme, tout doit être fait pour préserver la vie. Alors préserver la vie, ça peut être bien sûr faire la paix, ça peut être vivre sereinement, sans se préoccuper de son voisin et sans intervenir, c'est la meilleure manière et celle qui est recommandée. D'ailleurs, nous trouvons dans nos textes les commandements, vu qu'il s'agit vraiment de cela, les commandements utiles et nécessaires qui nous disent que lorsqu'on est contraint d'attaquer une ville, par exemple, on parle de l'Antiquité, bien sûr, mais ça s'applique à un pays aujourd'hui, on doit lui proposer la paix. Si elle accepte la paix, on n'a pas le droit de lui faire la guerre. Maintenant, quand quelqu'un se tient prêt à attaquer, alors c'est vrai au niveau individuel, c'est vrai dans les relations entre individus, mais c'est vrai aussi dans les relations collectives avec une ville, dans l'Antiquité, avec un pays aujourd'hui. En effet, vous avez cité une phrase qu'on peut même citer en hébreu, Akam leorgera, Ashkem leorgo. Quand quelqu'un se lève pour te tuer, en traduction littérale, eh bien, dans ce cas-là, lève-toi plutôt pour le tuer en premier. Mais quelle est la préoccupation ? Ce n'est pas la victoire. C'est de sauver des vies. On a affaire à un agresseur. On a affaire à un assassin, pour dire les choses très simplement. Ayant affaire à un assassin, on sait ce qui nous attend. Donc, dans ce cas, il vient armé. Et il affirme à qui veut l'entendre qu'il va tuer la personne qu'il recherche. Bien, dans ce cas-là, si on a l'obligation d'intervenir. On a l'obligation, non pas, même pas d'éliminer l'agresseur, mais on a l'obligation d'intervenir parce qu'il faut sauver la vie. D'ailleurs, dans cet ordre d'idées, nous avons de très nombreux développements qui parlent de l'obligation de déclencher une guerre. Précisément, et ça s'applique tout à fait à la situation que nous connaissons malheureusement aujourd'hui, de déclencher une guerre pour parvenir à cette fin. Et on se dit, mais on s'interroge bien sûr, c'est l'habitude talmudique de poser toutes les questions, y compris dérangeantes.
Justement, j'allais vous poser une question. Vous dites, la victoire n'est pas le but, mais si on lance une guerre contre un agresseur, la victoire permet de sauver des vies.
Tout à fait, c'est dans ce sens que je le disais. La victoire n'est pas le but en soi. On ne veut pas vaincre quelqu'un. On veut éliminer une menace parce qu'il s'agit de sauver des vies. La préoccupation, c'est sauver la vie. Et d'ailleurs, les commentateurs qui, autour de cette notion-là, observent que lorsqu'on a cette attitude, alors contrairement aux apparences, on n'a pas été belliciste, on n'a pas été sanguinaire. Au contraire, on a fait en sorte que l'agresseur ne puisse plus agresser. Et donc, on a sauvé des vies, on a fait œuvre d'une certaine manière de pacifisme, on a prévenu la catastrophe. Alors effectivement, c'est une attitude difficile, qui demande de la fermeté, qui demande beaucoup de courage aussi, mais c'est une nécessité. Parce que si on n'a pas cette attitude-là, alors l'agresseur ira jusqu'au bout de son projet et les pertes en vie humaine seront probablement beaucoup plus importantes.
C'est un peu, pour citer après le Talmud, je cite BHL, vous m'en voudrez pas, c'est faire la guerre sans l'aimer.
C'est exactement cela. La guerre est une horreur, il faut bien le dire. La guerre est dans le judaïsme, on n'aime pas la guerre. On ne l'aime pas, on ne l'a jamais recherchée. On sait bien que le peuple juif, y compris dans l'Antiquité, quand c'était encore le peuple hébreu et qu'il avait une souveraineté sur l'Israël antique, eh bien, ne recherchait pas la guerre. Comme on le dit, comme on le citait tout à l'heure, on a l'obligation de proposer d'abord la paix au peuple qui pose quelques problèmes. Mais si on est contraint à la guerre, alors il faut en tout état de cause, il faut en tout état de cause la mener jusqu'au bout, en sachant que plus on la gagnera, plus on la démarrera vite, et plus on la gagnera tôt, plus on aura sauvé des vies. Et c'est le but unique que nous devons rechercher.
Dernière question, Chaim Nissenbaum. On en parlait tout à l'heure avec Raphaël Amselem sur l'image, la façon dont Israël est utilisé pour véhiculer des tropes antisémites. C'est pour ça que c'est particulièrement intéressant ce dont vous nous parlez. Ce que vous entendez, vous, en tant que rabbin, par rapport à ce qui se dit effectivement, on a eu l'éclairage de Raphaël Amselem, j'aimerais avoir le vôtre, sur ce qui se dit sur Israël par rapport à Gaza ou par rapport à l'Iran. Est-ce que vous avez envie de nous donner un peu votre éclairage de rabbin là-dessus, rapidement, en 30 secondes ?
30 secondes, bien. D'abord, je voudrais dire que c'est vrai qu'il y a le tam-tam médiatique qui nous dit des tas de choses. Mais bon, il se trouve que, mais en tant que rabbin, je suis un peu reconnaissable. Disons que je suis un peu ostentatoire. Et bien, il m'arrive très fréquemment en ce moment d'être littéralement arrêté par des gens dans la rue que je ne connais pas, hein, qui sont évidemment pas juifs, et qui me disent, monsieur le rabbin, vous êtes